carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour à tous. Pierre Boulez disait de son ancien professeur d'harmonie au Conservatoire de Paris, Olivier Messiaen, en 1981, dans l'ensemble de son œuvre, l'orgue occupe une place primordiale, phénomène unique à notre époque, l'orgue ayant été abandonné à l'Église et à l'histoire. Olivier Messiaen avait effectivement choisi très tôt l'orgue comme instrument fétiche, instrument de prédilection, notamment parce que la recherche de sonorités inédites est quasiment infinie dans cet instrument, et aussi parce qu'il s'agit d'un instrument liturgique. Du coup, tout concourait en quelque sorte à rendre Messiaen heureux en présence d'un orgue, et particulièrement en présence de celui de l'église de la Trinité, dont il était le titulaire de 1931 jusqu'à sa mort en 1992, un orgue dont il disait qu'il était pour lui comme un fils. Bonjour Michel Fischer, merci d'être avec nous dans les studios de Canal Académie.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Vous êtes musicologue, maître de conférences à l'université Paris-Sorbonne. Vous êtes vous-même organiste, titulaire d'une...
Dans le 13e arrondissement.
Dans le 13e arrondissement.
Un orgue qui s'appelle, donc, l'église s'appelle Notre-Dame de la Gare. Et c'est un instrument qui a été un cavaillé-école, donc qui a été harmonisé par un grand harmoniste de la maison cavaillé-école qui s'appelle Rimbure. Voilà. Et qui avait, pour la petite histoire, qui avait donc dans la famille un frère qui était prêtre dans cette église. Et c'est pour cette raison qu'il y a encore ce bel instrument aujourd'hui dans une église à Paris.
Et vous êtes un interprète de Messiaen et d'ailleurs un interprète de son vivant.
J'étais un interprète de son vivant puisque j'ai eu la chance de jouer devant lui à Notre-Dame de Paris en deux concerts, l'intégrale des méditations sur le mystère de la Sainte Trinité dans une série de concerts qu'avait organisé Pierre Cochereau. C'était les auditions du dimanche après-midi à Notre-Dame de Paris.
Alors parlons d'Olivier Messiaen. Pourriez-vous déjà nous dire comment il a introduit à l'orgue ?
On ne peut pas dire que Olivier Messiaen ait été immédiatement fasciné par l'orgue.
Il était d'abord pianiste.
Il était d'abord pianiste, oui. Et puis c'était une époque où on venait à l'étude de cet instrument par une authentique culture d'écriture admirablement maîtrisée, donc harmonie, contrepoint, fugue, orchestration. Et ça a été le cas donc avec Olivier Messiaen, puisque la figure de proue de l'époque, bien sûr, c'était Marcel Dupré, hein, qui avait une aura tout à fait extraordinaire, hein, on peut encore le dire aujourd'hui, il y a des traces. Hein, Marcel Dupré est une figure très révérée, par exemple, aux États-Unis. Et on peut dire ainsi que c'était le passage obligé. On allait chez Dupré recevoir en quelque sorte la bonne parole organistique, ce que Messiaen a fait après, je crois, si ma mémoire est bonne, un passage donc dans la classe d'accompagnement qui, comme chacun sait, une super classe de piano.
Donc il est initié à l'orgue au Conservatoire de Paris, où Marcel Dupré était professeur, c'est ça ?
Oui, enfin, l'initiation, il a été probablement initié au clavier avant par ses études de piano, mais il faut considérer cela par l'improvisation. La venue à l'orgue se faisait par l'improvisation et les études naturelles qu'avait fait Olivier Messiaen auparavant le prédisposaient naturellement, encore une fois, à entrer dans cette classe.
Donc effectivement, il gagne le premier prix en orgue et en improvisation à l'orgue en 1929 au Conservatoire de Paris. Marcel Dupré, vous dites, l'initie à l'improvisation sur orgue, l'initie aussi au plein chant, je crois.
Oui, c'était des matières en quelque sorte musicales obligées, avec quelques contradictions, puisque comme vous savez, le plein chant ne s'accompagne pas, mais... Mmh. Le Conservatoire de Paris, paradoxalement, institution laïque, tenait à ce que les étudiantes et les étudiants puissent être initiés au plein chant pour des raisons, je dirais, presque alimentaires, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait la possibilité de vivre, on peut dire, en étant organiste liturgique. Et il fallait quand même connaître admirablement bien le métier d'organiste liturgique. Et le plein chant faisait partie de ce métier. Voilà la raison, elle est toute simple. Entre autres, ensuite, il y avait l'étude du thème libre, qui n'avait de libre que le nom, et puis surtout l'étude de la fugue à part entière, qui demandait une mémoire prodigieuse pour à chaque fois replacer le contre-sujet. Donc un travail excessivement méthodique et rigoureux, et Marcel Dupré était un expert en la matière. Voilà, donc ces trois disciplines faisaient partie intégrante, on peut dire, de l'enseignement de Marcel Dupré à la classe. En cela, il suivait lui-même une tradition qu'il avait héritée de Eugène Gigou, et puis héritée de Vidor, et puis héritée du maître absolu de l'improvisation qui était César Franck.
Qu'est-ce que vous pensez que Messiaen a pu hériter de Marcel Dupré ? Je pense que c'est intéressant qu'on fasse ces parallèles-là, parce qu'on parle souvent d'Olivier Messiaen en termes de rupture, de nouveauté dans le langage de composition, de rupture aussi dans la vision même de la musique, telle qu'il va lui-même l'enseigner plus tard. Mais avec un professeur tel que Marcel Dupré ?
Alors, c'est une question difficile que vous me posez, je vais essayer d'y répondre avec des nuances. Si je puis me permettre, il faut se souvenir d'une œuvre pour orgue que Olivier Messiaen a dédiée à ses deux professeurs, à la fois à Marcel Dupré et donc à Paul Ducas. Cette œuvre s'appelle, c'est un diptyque.
Ducas qui était son professeur de composition et d'orchestration au Conservatoire de Paris.
C'est ça, Paul Ducas a donc été un maître merveilleux, hein, un homme d'une culture vraiment tout à fait exceptionnelle. Quelle chance, au fond, qu'a eu cette génération dont Olivier Messiaen faisait partie. Mais il y en a d'autres compositeurs, on ne va pas tous les citer, mais c'est aussi une réalité de la grande vivacité de la musique française de cette époque-là. Alors, à tout seigneur, tout honneur, si on reprend le cas de Marcel Dupré, donc c'est presque une obligation, en quelque sorte, d'écrire une œuvre qui serait dédiée à un de ses maîtres, là en l'occurrence c'est les deux maîtres. Alors on retrouve des traces au niveau de l'écriture, notamment des staccato, des accords à la suite les uns des autres dans un débit assez fourni, si je puis me permettre cette expression. Et c'est là tout de même qu'il y a des traces assez visibles de l'héritage de Marcel Dupré. Et puis, dans l'élaboration de la musique elle-même, Olivier Messiaen a tiré parti de la facture d'orgue qui, à l'époque, était en pleine évolution. Et il écrit même dans le très aigu de l'instrument, n'est-ce pas ? Ce qui est la seule fois où il va si loin, d'ailleurs, dans ce diptyque. Il ne renouvelle pas l'expérience par la suite. Je parle vraiment au point de vue de la facture. Et là encore, il est dans la descendance, si je puis dire, de son maître, ce qu'il fera beaucoup moins ensuite dans les œuvres qu'il sera amené à écrire. Voilà.
Thank you.
Donc il a pour autre professeur, on l'a cité, Paul Dukas, qu'il considérait comme son professeur principal. Il est également élève de Maurice Emmanuel, qui lui apprend, je crois, la métrique grecque, ou du moins lui montre la voie, ainsi que de Charles Tournemire, grand organiste improvisateur qui est un peu passé dans l'oubli depuis.
Donc Tournemire joue un rôle très très important dans les années 20-30. C'était vraiment une figure que je qualifierais d'historique dans le bon sens du terme. Il avait une connaissance tout à fait remarquable du plein chant, mais une connaissance dans l'esprit d'une époque qui n'est plus, bien entendu, l'esprit des musicologues d'aujourd'hui, mais là n'est pas la question. Et surtout, il a écrit une œuvre monumentale et qui est restée dans l'histoire, qui s'appelle « L'orgue mystique ». Et donc une utilisation, on peut dire, systématique du plein chant, hérité donc des offices catholiques, et au point d'en faire une œuvre tout à fait magistrale, comparable peut-être dans l'esprit de Charles Tournemire aux grandes œuvres religieuses de l'autre maître outre-Rhin, dont Johann Sebastian Bach. Et il est certain que cet exemple était tellement hors du commun, tellement fascinant, que Messiaen devait impérativement, tout en l'admirant, s'en dégager. Et il va employer le plein chant dans son œuvre de multiples manières, mais jamais dans la façon dont Tournemire l'a employé. Ça, immédiatement, il faut le souligner. Donc probablement, Messiaen, très rapidement et très jeune, a été confronté à des exemples hors du commun. Il avait deux solutions, soit donc il devenait en quelque sorte le disciple à vie de ses deux maîtres, soit il s'en séparait, tout en le révérant, bien entendu, ces deux exemples.
Charles Tournemire était très différent de Marcel Dupré, je crois, notamment rythmiquement.
Oui, et puis c'était un tempérament musical tout à fait différent. Marcel Dupré était un virtuose, d'ailleurs, mais si on le dit, c'était le Liszt de l'orgue. Marcel Dupré partait aux États-Unis avec jusqu'à 18 programmes. Enfin, vous voyez, il avait joué plus exactement de mémoire en 1920 toute l'œuvre de Johann Sebastian Bach. C'était un virtuose tout à fait hors du commun. Charles Tournemire était un professeur de musique de chambre au conservatoire, épris d'une grande culture aussi musicale, cela va de soi, et épris d'une très grande connaissance de la musique plainchantesque, épris de l'école de Solesme aussi. C'est sans doute celui qui a le mieux compris à son époque le message donc des moines de Solesme, la restauration, comme on l'appelait à l'époque, du plein chant. Et toute sa vie, il a consacré. Il est proche d'une voie assez mystique, finalement, Charles Tournemire. Et il est beaucoup moins dans la virtuosité par rapport à l'orgue, bien que son œuvre soit quand même assez difficile à interpréter. C'est deux tempéraments, deux univers, on peut dire, différents. Mais cela pose vraiment le décor magnifique de cette musique d'orgue que l'on doit vraiment nuancer, différencier et ne pas mettre tous les compositeurs sur le même plan.
C'est ça, on ne peut pas parler plus d'une école française de l'orgue à l'époque. C'est quand même beaucoup plus compliqué que
ça. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus nuancé. Il y a des tempéraments merveilleux et ne les mettons pas tous sur la même ligne. Voilà, sachons tout simplement discriminer leur musique. C'est assez simple, au bout du compte.
Mais c'est intéressant de voir en quoi est-ce qu'Olivier Messiaen est leur héritier ou non. Est-il héritier d'une tradition tout de même française de l'orgue ou d'une tradition romantique de l'orgue?
Alors là aussi, vous avez l'art de me poser des questions difficiles. Je vais essayer de nuancer et de... si c'est possible, de repositionner un petit peu, non pas la musique d'Olivier Messiaen, mais les différents itinéraires par rapport à son œuvre d'orgue. En tout cas, il s'est distancé également aussi de la musique de César Franck, qui est une œuvre d'orgue tout à fait remarquable, comme chacun sait, notamment avec son testament musical et les trois chorales, entre autres, que Charles Tournemire magnifiait. D'ailleurs, il a écrit un très beau livre dans les années 30 sur César Franck.
Et je crois que Charles Tournemire succédait à César Franck à Sainte-Clotilde.
Voilà, tout à fait. Il y a toute une lignée de grands compositeurs, Gabriel Pierné, entre autres, Jean Langlais, bien sûr. Et Olivier Messiaen a compris, là aussi, que le message de César Franck n'était pas le sien. Donc, il s'est distancé, tout simplement. Et en revanche, il est beaucoup plus proche, non pas par rapport au langage musical, mais peut-être à la pensée de l'enregistration. de ces grands crescendo, il dit lui-même dans ses entretiens avec le Samuel, de ces grands crescendo que l'on retrouve parfois dans la musique de Messiaen, et ces crescendo, on peut les entendre dans certaines musiques de Charles-Marie Bidor. Mais encore une fois, la musique de Charles-Marie Bidor, la musique d'Olivier Messiaen n'ont rien à voir l'une par rapport à l'autre. Bon, là, peut-être il y a des pistes à chercher au niveau, encore une fois, de l'élaboration de grandes strates de crescendo timbriques pour cet instrument typiquement cavaillé-colle. Ensuite, au niveau des autres maîtres, on en a un petit peu parlé il y a un instant, pour Marcel Dupré, il y a l'héritage de l'ultra staccato, hein, c'est une trouvaille qui revient à Marcel Dupré, et puis l'esprit de certains passages, ce qu'on appelle l'esprit de la toccata. Mais ensuite, Olivier Messiaen a abordé une singularité qui est celle du maniement des timbres et qui situe tout à fait sur un autre plan. Et ça, ça lui appartient en propre. Il a créé son propre sillon. Il a su se séparer des fameux plans cavaillé-colle que l'on peut citer très brièvement, que Vierne aussi a abondamment commenté, si je puis dire, dans ses symphonies, que je résumerai de la façon suivante. Vous avez un plan sur les jeux de fond et puis un plan sur les jeux d'anche. Et vous pouvez les mélanger. Et puis, il y aurait un troisième plan qui est un plan de jeu de détail. Et Messiaen s'est séparé de ce plan un petit peu trop convenu et, bien entendu, a tracé sa propre voie. Et ces œuvres-là, ces œuvres sont là pour nous le rappeler. Il suffit simplement de les étudier et de les jouer.
Alors Olivier Messiaen devient à l'âge de 22 ans seulement organiste titulaire à l'église de la Trinité à Paris, c'est en 1931. Il succède à un certain Charles Keff, c'est ainsi qu'on prononce
son
nom,
tout à fait,
et reçoit pour obtenir ce poste le soutien de Dupré, de Vidor, de Tournemire et de Maurice Emmanuel qui étaient donc ses professeurs. Quoique Tournemire n'était pas son professeur direct, hein, je crois,
non, au conservatoire. Non. N'était pas son professeur direct, mais disons que Messiaen allait souvent à la tribune de Sainte-Clotilde, en quelque sorte recevoir le message de la bonne parole, puisque Tournemire a improvisé d'une façon extraordinaire. Donc c'était l'enseignement, si je puis dire, ex abrupto. Voilà.
Comment vous décririez cet orgue de la Trinité? Il me semble que c'est un instrument de taille relativement moyenne.
Oui, c'est quand même un grand instrument de l'époque cavaillé-colle.
Oui.
C'est un instrument donc qui a des fonds, de jeux de fonds, sans entrer dans les détails, absolument magnifique, une coloration tout à fait exceptionnelle. Et Messiaen donc s'en est servi admirablement bien, mais également il a su éclaircir un petit peu l'instrument, donc lui donner davantage de timbres aigus. Et il s'en est servi dans son œuvre, donc à juste titre. Donc il a éviter de se cantonner, dans quelques fois un petit peu, les timbres plus sombres de l'instrument cavaillé-colle. Il a su obéir aussi à l'esprit du temps. Il a su le restaurer avec intelligence, en se coulant en quelque sorte dans le moule d'une époque. Ça, on ne peut pas éviter. Ce qu'on appelle en facture tout simplement l'obéissance à des strates archéologiques. Enfin, chaque créateur peut intervenir et procéder à certaines modifications. Il n'a pas du tout détruit leur cavaillé-colle, qu'on se rassure, au contraire, il l'a magnifié en incorporant à juste titre des modifications qui ont été finalement au bénéfice de son œuvre. Voilà une restauration finalement intelligente, oui, me semble-t-il.
Il a fait des modifications, une restauration sur cet orgue qui lui permettent d'aller encore plus loin dans sa recherche de sonorité. Un phénomène où on puisse retirer la fondamentale pour n'avoir quasiment que les harmoniques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Oui, mais tout simplement, il faut dire aussi au niveau de l'aspect historique, c'est que Messiaen n'est pas un compositeur qui s'est coulé dans le moule des grands artistes post-romantiques, disons pour simplifier, alors que je pense par exemple à Louis Vierne, avec l'orgue Notre-Dame de Paris tel qu'il n'existe plus maintenant, hein, je parle de l'orgue de Vierne encore de son vivant, avec des grandes oppositions, or quand même assez sombres. Orgue donc avec des jeux de fond comparables à l'orchestre finalement, hein, un peu l'orgue de Berlioz sans Berlioz, avec des jeux de fond tout à fait admirables et des jeux d'anches, ce qu'on appelle donc trompettes, etc., clairons, bombardes, qui ne sont pas moins. Et donc des familles typiquement françaises dans le bon sens du terme. Alors, nourries de fondamentales, bien entendu, et là Messiaen a apporté quelque chose de tout à fait nouveau. Et il a retiré certaines fondamentales pour se mouvoir dans des timbres excessivement, dans des fréquences, on pourrait dire, excessivement aiguës, voire même suraiguës. On en a des exemples dans la messe de la Pentecôte, par exemple. Je pense aux dernières mesures d'un mouvement qui s'appelle Communion, les oiseaux et les sources, où il va explorer les sons les plus graves, jusqu'aux 32 pieds, par exemple, donc, et jusqu'au son le plus aigu, extrême aigu, jusqu'au piccolo. Donc Messiaen a recherché un emploi nouveau de timbre, a recherché de l'inédit, mais pas de l'inédit pour de l'inédit. Il a organisé sa musique en fonction de recherches nouvelles et audacieuses, et c'est là que sa pierre de touche est remarquable, tout en jouant un instrument cavaillé-colle. C'est-à-dire qu'il a une pensée héritée à la fois de cette facture et qui la transcende. Voilà, ça c'est un apport tout à fait essentiel. Il ne s'est pas, encore une fois, coulé dans, gentiment, tranquillement, dans un moule du passé en disant voilà, je n'ai que deux fonctions, les fonds et les anges. Quelquefois un petit peu de mixture pour éclaircir l'ensemble de la palette, mais pas plus. Non, il a cherché un emploi nouveau de timbre et le résultat lui appartient en propre. Immédiatement, on entend deux mesures d'Olivier Messiaen, on sait que c'est lui. Voilà.
Thank you.
Est-ce que vous avez joué cet orgue de la Trinité depuis les modifications?
Non, depuis les modifications, non, je n'ai pas joué. Moi, j'ai joué surtout, je vous le disais au début de notre émission, donc j'en ai discuté avec lui après le concert, donc à Notre-Dame de Paris, et il m'avait fait la remarque, il m'avait dit, bon, là, c'est un petit peu sombre, il faudrait éclaircir, donc on voyait bien qu'il avait une oreille attentive à des timbres plus aigus, voyez-vous, plus centrés, encore une fois, sur ce qu'il voulait. Il était très exigeant pour que l'on puisse respecter ce qui était indiqué dans la partition, non seulement au point de vue des notes, non seulement au point de vue des rythmes, mais aussi au niveau de l'enregistration. Là, il ne faisait pas de concession. Il n'en a jamais fait, d'ailleurs, à propos de sa musique.
Et il avait fait ajouter, je crois, à cet orgue Cavaillé-Coll de la Trinité, des jeux d'anches, des jeux de mixture.
Oui, il avait fait
électrifier le toucher.
Là, c'est ça, oui, mais c'est aussi un trait d'époque. Oui. L'électrification, c'est un trait d'époque. Il ne fut pas le seul. Hein. On a aussi électrifié d'autres instruments. On a électrifié Sainte-Clotilde. On a électrifié aussi Notre-Dame de Paris. Le seul instrument qui n'a pas électrifié, et les Américains nous le remercient d'ailleurs, c'est l'orgue de Saint-Sulpice, parce que c'est un joyau de la facture d'orgue Cavaillé-Coll. Il en faut aussi, naturellement.
Alors, on parlait de sonorité. Également, dans sa recherche rythmique, je crois que l'orgue satisfaisait particulièrement les attentes d'Olivier Messiaen. En ce qu'un orgue permet, des tempi extrêmement lents.
Oui, probablement l'orgue, mais c'est pas le seul instrument. On en retrouve aussi ce caractère finalement dans son œuvre. Mmh. Il était attaché à une dimension qui nous échappe peut-être un peu aujourd'hui, hein, puisque nous sommes toujours dans la vitesse, dans des dimensions multiples, en surmultipliées, en trois dimensions, quatre dimensions. Donc il recherchait, et son œuvre est là pour l'attester. Il recherchait une dimension contemplative dans la musique et dans l'expression de sa propre musique. Et ça, d'entrée de jeu, finalement, est-ce dû à la thématique, si je prends pour mémoire une œuvre toute simple, qui s'intitule Le Banquet Céleste, qui est une œuvre destinée...
Une de ses premières œuvres.
Voilà, une de ses premières œuvres, une de ses œuvres de jeunesse, qui est destinée donc au temps de la communion. Et c'est une œuvre tout à fait digne d'enseignement, puisque c'est une œuvre très statique, mais en même temps, justement, l'utilisation à la pédale, il y a des timbres qui sont très aigus, donc qui n'ont pas pour fonction, une fonction habituelle, d'être communément appelés à être joués au pédalier avec des basses. Vous savez, quand on parle tout simplement du pédalier, on croit toujours qu'il y a des basses qui occupent tellement l'espace qu'elles écrasent un petit peu le tout, ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut attendre tout à fait la fin de l'œuvre pour avoir une basse qui pose un petit peu le langage musical et qui l'identifie. Alors cette question de tempo assez lent renvoie à sa propre intériorité, à cette dimension temporelle qui lui appartient en propre et qu'on retrouve aussi quand même dans ses propres œuvres. Mais ce qui est important, c'est que tout jeune, finalement, il a incorporé cette dimension et jusqu'à la fin de sa vie, on peut le dire. Voilà. Ce n'est pas que cela non plus, Olivier Messiaen, mais on ne peut pas passer sous silence cette dimension d'atemporalité ou d'intemporalité dans son œuvre.
Ce que vous dites nous amène évidemment à parler de Messiaen en tant qu'organiste dans l'église de la Trinité et comme compositeur de musique religieuse pour l'église. On parlait un peu plus tôt de cette opposition de registres. Il aimait ainsi faire coïncider de l'extrême grave avec de l'extrême aigu, qui représentait un peu les deux abîmes. Est-ce que d'après vous qui avez étudié quand même assez profondément l'œuvre de Messiaen pour orgue, est-ce que tout a une fonction symbolique, religieuse, chez Messiaen?
Dans son œuvre d'orgue, certainement. Voilà. Même si on peut toujours découvrir une dimension différente. Mais enfin, tout de même, c'est un artiste qui s'est dit croyant, et donc son œuvre d'orgue l'atteste. C'est une œuvre qui s'appuie sur des textes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et quand même des pères de l'Église. C'est une œuvre qui, à ce titre-là, a sa cohérence. Et c'est une œuvre donc qui obéit naturellement à des périodes complètement différentes. Et il ne nous appartient pas là aussi de tout confondre, il faut nuancer. On ne va pas mettre sur le même plan une œuvre transcrite de l'orchestre alors comme l'Ascension avec une œuvre de recherche de langage musical très très élaborée au niveau des timbres, au niveau du rythme, au niveau du langage et au niveau inséré aussi dans la période. Je pense aux années 50, hein, c'est un grand moment. Je citerai la messe de la Pentecôte, je citerai le livre d'orgue par exemple. Et puis aussi dans le cycle des méditations sur la Sainte Trinité de l'année 1969. Il y a donc tout ce substrat qui n'est pas forcément liturgique, encore une fois, qui est ancré dans la symbolique religieuse. Il y a un travail sur les textes et il y a un résultat musical à chaque fois différent qui nous appartient vraiment d'étudier avec beaucoup de sérieux, très attentivement, avant d'affirmer quoi que ce soit. Donc là, il faut faire un travail de calme, de probité et d'étude, tout simplement. Mais si on nous convie à l'étude, c'est simple à dire comme ça, mais c'est en fait beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors là, encore une fois, tout est marqué. Alors il y a une recherche de timbre qui a pu, disons, dérouter des oreilles non préparées à ce type de rencontre à la fois du langage harmonique et des timbres employés. Parce qu'au fond, vous savez, chaque instrument, il a sa propre histoire, il a aussi ses clichés à réception. Hein. On prend le piano, bon, les gens qui aiment Chopin, le piano, ce n'est que Chopin. Ou les gens qui aiment l'orgue, ce n'est que Bach. Et non, pas du tout, Messiaen, encore une fois, repenser l'orgue. Et c'est la raison pour laquelle, et sans doute, il y a eu des oppositions, il faut bien le dire. Sinon des oppositions, tout au moins une certaine méfiance. Et sinon une certaine méfiance, tout au moins une certaine difficulté à entendre un instrument qui, au départ, n'est pas si simple aussi à accepter et à entendre, parce qu'il y a des confusions. Ah, il est dans une église. Ah, on a l'habitude d'écouter la toccata et fugue en ré mineur. Ah, on a l'habitude d'écouter telle symphonie de Vierne. Ah, on a l'habitude d'écouter la toccata de Widor à la sortie d'un mariage. Et ce n'est pas du tout ça, l'œuvre de Messiaen. C'est une œuvre qui incorpore, encore une fois, l'esprit de la recherche, l'esprit de l'aventure. Et j'ai cité ces deux œuvres à dessein, la messe de la Pentecôte et le livre d'or, qui sont vraiment deux sommets dans la vie artistique de ce très grand musicien français.
Comment est-ce que, d'ailleurs, son œuvre était-elle accueillie par les paroissiens de la Trinité ?
Ben, les paroissiens de la Trinité.
Et par le curé.
Oui, ben, c'est-à-dire qu'il faut distinguer deux choses. La première, c'est que par définition, si j'ai tout compris, les personnes qui viennent dans une église viennent quand même, en principe, pour s'y recueillir, pour entendre donc un certain nombre de chants, plus ou moins d'ailleurs intéressants, mais là n'est pas la question, et puis entendre en gros un commentaire liturgique. Alors, si on reste dans l'esprit, je me mets un petit peu dans l'esprit des années 50, où il y avait encore des vêpres, etc. Si on reste dans cet état d'esprit, il y avait plus ou moins une paraphrase, un commentaire, donc du plein chant. Donc, généralement, les commentaires étaient assez sages. Après, deuxième hypothèse de lecture, c'est qu'à cette époque-là, il y avait encore le matin, ce qu'on appelait la messe de midi, qui n'existe plus maintenant, depuis bien longtemps, et où le curé de l'époque avait laissé, en quelque sorte, toute l'attitude au maître Messiaen, la possibilité, finalement, d'improviser, non pas ce qu'il voulait, mais d'improviser une musique en relation avec la liturgie, mais par rapport à son langage musical. Et là, évidemment, le langage étant, entre guillemets, moderne, et les paroissiens, ou le tout venant, si je puis me permettre, cette expression qui venait à l'église n'étant absolument pas préparée à entendre un langage autre que le plein chant, évidemment, on pouvait être dérouté. Alors c'est là qu'il y a eu, mais ce n'est pas le seul exemple, hein, dans la musique dite contemporaine, quand les gens viennent au concert, ils ne sont pas préparés, c'est aussi la même chose, il y a des malentendus qui se sont probablement produits. Mais c'est tout à fait normal.
Pourtant, Olivier Messiaen a effectivement s'attaché au texte biblique. Et je citerai l'article que vous avez consacré à la question dans les cahiers du CIREM, un cahier consacré à Olivier Messiaen, orgue et piano. Vous allez très loin dans l'étude de la façon dont Olivier Messiaen pouvait même être illustratif. Illustratif des textes bibliques. Et vous faites ainsi des parallèles directement entre les Écritures et l'écriture d'Olivier Messiaen.
Oui, là aussi, si je puis me permettre, la Bible elle-même, et c'est André Chouraqui qui l'a dit déjà il y a pas mal d'années, puisque, comme vous savez, il a retraduit les psaumes, par exemple. Mais les textes bibliques, c'est charnel, c'est illustratif. Enfin, on ne peut pas lire cette musique, cette langue, comme ça, d'une manière si abstraite et si enfermée dans sa propre chambre. Et Messiaen, Je ne sais pas si vraiment il a lu cette Bible de Chouraki, parce que cet exemple me vient spontanément à l'esprit. Pour carner un petit peu tout ça, si je puis me permettre cette expression, il y a dans la musique de Messiaen des élans abstraits, ça c'est certain, dans le livre d'orgue, mais il y a aussi des élans qui se rapprocheraient davantage de l'art de la représentation. C'est-à-dire un thème musical peut illustrer, dans la nativité du Seigneur par exemple, la dernière pièce qui s'intitule « Dieu parmi nous », peut illustrer le thème de la chute. Donc il dit dans le traité du langage musical, et presque en s'excusant, donc à propos de la deuxième personne de la Sainte Trinité, donc du Christ et de sa naissance, donc la chute, puis ensuite la remontée vers le Père. Et on a un exemple comme ça, clamé au pédalier, acclamé, qui est proche, en quelque sorte, de l'idée de la représentation qu'il se fait de cette chute. Donc il y a chez lui toujours la volonté, peut-être pas d'illustrer au premier degré, mais d'être immédiatement saisi, thématiquement, et ne pas être abscon. Et là, il y a une relation texte-musique, je dirais, par la voix directe, ce qui lui permet ensuite d'être beaucoup plus abstrait. A contrario, je prendrai un deuxième exemple. Dans la première méditation, si mémoire est bonne, des mystères de la Sainte Trinité, où il emploie justement le langage communicable qu'il avait mis au point en particulier pour cette œuvre, et qu'il utilisera d'ailleurs jusqu'en 1984 dans le livre du Saint-Sacrement, tout au moins dans certaines méditations. Et bien là, je puis vous assurer que la musique est beaucoup plus difficile, même s'il y a un thème, et qu'il y a une grande différence, encore une fois, nuançons nos jugements, entre cette idée de la représentation qu'il avait, que l'on ne peut pas nier, et là vous avez raison, et puis une autre manière de se mouvoir dans la musique est thématisée à l'aide, par exemple, de langage communical, et qui est beaucoup plus abstraite, et qui n'est, j'imagine, pour des fidèles et ou pour un public qui n'est pas si commode que cela à entendre s'il n'a pas la partition. Pour suivre un petit peu tout ce que le compositeur a imaginé et ce qu'il ne veut nous dire dans ses préfaces qui sont toujours très explicatives, qui veulent pratiquement tout nous dire sur la musique, mais à force de vouloir dire, il faut savoir retranscrire, décoder. Et là, il y a un immense travail. Le chantier est ouvert. C'est ce que je me suis permis un petit peu de faire dans la glose musicologique, si ma mémoire est bonne à propos de mon propre travail.
Oui, parce que Olivier Messiaen avait en fait ce rapport à la représentation qui il est de la même manière qu'il aimait beaucoup dans ses musiques parler de couleurs, qu'il aimait quasiment parler de paysages. Il faut quand même les entendre. Lui les entendait et de la même manière, il pouvait ainsi se représenter une scène biblique dans ses œuvres. Il faut, maintenant, c'est difficile de l'entendre, à moins d'être absolument initié.
Je comprends ce que vous dites et vous avez raison. Mais Messiaen s'intéressait, si on croit donc ce qu'il a dit, et j'ai aucune raison de ne pas le croire, tout jeune, il s'intéressait au théâtre. Donc l'idée donc de personnages, par exemple les personnages rythmiques, tout le monde connaît un petit peu la théorie des personnages rythmiques, et au-delà donc la représentation théâtrale, l'action théâtrale est chez lui absolument essentielle à comprendre. On le retrouve même à l'orgue, on a cette dimension. Par exemple dans la Nativité du Seigneur, il dit dans sa préface, dans telle et telle pièce, ah j'ai représenté en quelque sorte des personnages qui ont une poésie particulière. Alors il cite ces personnages, ça peut peut-être nous faire sourire, mais c'est ainsi. Et là on est proche d'une certaine idée de la dévotion populaire, mais la musique n'est pas populaire, elle n'est pas au premier degré, puisqu'elle est sous-tendue par un langage très élaboré, etc. Donc je citerai trois pièces, bon, Les Bergers, par exemple, ensuite il y a Les Anges, et puis une troisième pièce qui s'appelle Les Mages. Et bien dans ces trois pièces, qui sont très significatives, et bien dans ces trois pièces, il y a cette idée de la représentation. Alors vous avez quoi ? Dans Les Anges, l'idée de la vitesse, de ce qui est furtif, de ce qui est immatériel, donc une musique très rapide, très scintillante. Dans Les Bergers, vous avez dans la partie centrale de cette œuvre une mélodie apparemment naïve avec un timbre très spécifique, voyez-vous. Et puis ensuite, dans la troisième pièce, une pièce beaucoup plus méditative qui nous enchante un petit peu par les timbres utilisés, par le tempo très lent, aussi par le pédalier. Tiens, le pédalier sonne à l'octave supérieure, il est en quatre pieds avec des tournures qui étaient pour lui très importantes à l'époque, héritées d'ailleurs d'autres langages, le chromatisme retourné. Alors à chaque fois chez lui, il y a la, dans ces trois pièces, la volonté d'être très accessible, mais en même temps le langage est déjà très élaboré. Et puis il y a des recherches de timbre. Alors il y a toujours cette, tout ça est très fin, et, mais il n'a pas rompu avec une certaine idée de la représentation, puisqu'il s'adresse, il dit, lui met dans sa préface, ben voilà, j'ai fait un peu de peinture, ou alors on peut dire du théâtre, j'ai théâtralisé la venue des anges, j'ai théâtralisé la venue des bergers, j'ai théâtralisé la venue des mages, et le tout va s'incorporer dans un grand cycle qui, au niveau symbolique, s'appelle la nativité du Seigneur. Et à la fin, je vais acclamer le thème de Dieu, le thème de la représentation de la seconde personne du mystère de la Sainte Trinité, n'est-ce pas ? Donc le Christ est dans, dans une immense toccata qu'il va révérer, utiliser le ton de mi majeur, avec, c'est vrai, plein de couleurs à la Messiaen. Le mi majeur, il suffit de lire son traité, représentant pour lui, encore une fois, hein, la couleur rouge. Vous allez me dire, bon, mais il y a des gens qui ne voient pas cette couleur. Mais là aussi, Messiaen se situe, je dirais, si on a tant soit peu lu, et il faut le faire, tous les textes, alors dans la littérature, dans le rapport littéraire, dans le rapport pictural, dans la grande littérature française, dans la grande poésie française, Rimbaud, Baudelaire, etc., il se situe dans cette mouvance, n'est-ce pas ? Comme il révérait là aussi toute la peinture de Delaunay ou de Blangati, etc., parce que dans l'Intimité du Seigneur, il avait fait illustrer aussi chacun de ses tableaux, chacun de ses scènes, chacun de ses mouvements par finalement les toiles de Blangati. Donc il y a une correspondance. C'est une musique de correspondance qui ne peut pas être laissée seule. On peut l'analyser pour elle-même, bien entendu, mais il nous manque quand même du sens. C'est ce qui est intéressant dans la musique de Messiaen, c'est qu'il nous ouvre des portes, pas simplement sur l'orgue, pas simplement sur la symbolique, pas simplement sur les textes, mais il nous ouvre vraiment, vraiment beaucoup de portes, une porte après l'autre. Il va très très loin, il nous permet, il nous emmène, il nous incite à lire, à relire, à découvrir. C'est ça qui nous permet d'être intéressant dans sa musique.
J'avais lu un texte d'Olivier Messiaen parlant de sa façon de voir les vitraux. J'ai trouvé ça magnifique, il concède qu'on ne voit qu'éblouissement de loin, et si on s'intéresse aux détails, on voit tellement de choses, justement, qui peuvent être carrément illustratives.
Oui, il me semble que, voyez-vous, si on est très loin, on ne peut pas, par définition, hein, être spécialiste de tout ou tout connaître, soyons humbles par rapport à tout ce que nous venons d'énoncer, mais sans vous révéler quoi que ce soit, il m'est arrivé, je dois le dire, de repartir un petit peu après ses traces, ou derrière ses traces, après ce qu'il a pu nous dire, notamment sur l'art du vitrail ou des vitraux, et d'aller voir certains lieux dont il a évoqué dans ses entretiens, par exemple, avec Claude Samuel, et je pense notamment à la cathédrale de Bourges ou à la cathédrale de Chartres. Et je me dis, au fond, quelquefois, nous voyons très mal, nous avons vu d'une manière trop furtive, et c'est à chaque fois intéressant parce qu'il nous met en présence de notre propre patrimoine que nous ne connaissons pas toujours, que nous avons vu trop rapidement, et à chaque fois il nous incite à regarder d'une manière différente. Donc il y a toujours chez lui une tradition d'enseignement, enseignante, même s'il n'est pas à côté de nous pour donner des cours, ça va de soi. Mais en ce sens-là, c'est très pertinent. Et il nous incite à redécouvrir. Alors après, son propre éblouissement n'est peut-être pas le nôtre, etc. Ce sont des éléments tout à fait différents. Mais il y a une pertinence chez lui dans ses remarques, notamment dans l'art du vitrail. Ça me fait penser à une église que j'avais visitée à Berlin, qui avait été détruite pendant les bombardements, la Gedenkirche. Et j'ai vu à côté de ce clocher détruit, qui existe toujours là aujourd'hui, donc à ce qu'on appelait à l'époque à Berlin-Ouest, une église tout à fait nouvelle et construite, et que ne fut pas mon émerveillement de constater que c'était une église moderne avec des vitraux le bleu de Chartres. Donc cet héritage de paix, finalement, a remplacé, heureusement, cet héritage du malheur. Et là, j'ai pensé quand même à Messiaen, si je puis me permettre. Je me suis dit, là, quand même, la symbolique est très forte. La destruction est à côté, mais en quelque sorte, la résurrection, la paix est symbolisée par le bleu de Chartres. Et nous, c'est notre pays, etc. Peut-être nous ne voyons plus rien. Et lorsqu'il nous remet en situation ses connaissances et ses thèmes qui l'ont aidé à réfléchir sur le musical, c'est non seulement une découverte, c'est une joie, c'est un approfondissement, je crois.
Un autre aspect de la composition pour orgue d'Olivier Messiaen, c'est évidemment ses chants d'oiseaux. Je dis évidemment, et en même temps, ce n'est pas si évident que ça, parce qu'il a essentiellement développé des chants d'oiseaux au piano, dans ses œuvres pour piano, mais c'est également présent dans ses œuvres pour orgue.
C'est exactement vrai ce que vous dites. Il y a des chants d'oiseaux pour l'orgue. Il y a d'ailleurs une singularité des chants d'oiseaux due notamment au timbre qu'il a employé grâce à cet instrument. Alors on va peut-être prendre plusieurs exemples. Là, j'ai la partition sous les yeux. Il y a la messe de la Pentecôte, quatrième mouvement, la communion, les oiseaux, les sources. Vous avez aussi dans le livre d'orgue chants d'oiseaux pour le temps pascal. Vous avez aussi des chants d'oiseaux dans le cycle Méditation sur le mystère de la Sainte Trinité. Vous avez aussi beaucoup de chants d'oiseaux encore plus développés au niveau des longueurs, si je puis me permettre, dans le livre du Saint-Sacrement. Et vous avez même un morceau de concours que Messiaen avait écrit dans les années 60 pour le Conservatoire de Paris, un morceau de concours absolument superbe, qui s'appelle Verset pour la fête de la dédicace, où il a intégré aussi des chants d'oiseaux. Alors, dans la partition que j'ai sous les yeux, par exemple, quatrième mouvement, communion, les oiseaux et les sources, le texte vous dit ceci, source d'eau, bénissez le Seigneur, oiseau du ciel, bénissez le Seigneur, donc cantique des trois enfants. Et alors, Messiaen inaugure en quelque sorte cette pièce par le timbre du hautbois, donc un timbre très détaillé, très agresse, très beau, en solo, et il intègre ici le chant d'un oiseau, et immédiatement suivi ensuite d'un bref commentaire harmonique sur ce qu'on appelle des jeux ondulants. Et puis, il immédiatement suit en solo le chant donc du rossignol. Vient ensuite en réplique donc le chant donc du merle noir, qui est un oiseau qui a beaucoup d'importance dans son œuvre. Le merle noir avait été d'ailleurs sera utilisé dans une œuvre pour piano et flûte qui s'appelle donc le Merle Noir, puis aussi dans d'autres œuvres de Messiaen, notamment pour orchestre. Et il y a un magnifique mouvement à deux voix en solo d'ailleurs qui suit immédiatement. Donc il y a un solo de Merle Noir et avec un toucher aussi, puisque c'est une référence ornithologique, une référence à la phénoménologie de la nature, tout à fait remarquable. Donc, c'est indiqué sur la partition avec des staccato en gouttes d'eau. Et voilà, goutte d'eau, c'est un effet musical important dans l'œuvre de Messiaen. Et je me souviens que ce staccato, la goutte d'eau, on l'avait déjà dès la première œuvre, on en a parlé, qui s'intitule d'ailleurs le Banquet céleste. Alors, le chant du merle est très présent donc de ce mouvement central que l'on retrouve et qui corrobore en quelque sorte l'écriture de ce mouvement de la messe de la Pentecôte, qui est tout à fait fondateur, illustratif et qui est le plus proche pour l'époque de la nature. Et c'est là que l'on retrouve, pour terminer avec une enregistration spécifique, donc flûte de 4, donc à l'octave, pas de fondamentale, le piccolo 1, donc plusieurs octaves plus haut, et puis la tierce, donc un timbre tout à fait particulier. Et pour terminer, en conclusion, les timbres les plus graves de l'instrument, donc sous basse 16, sous basse 32, et puis des timbres de plus en plus aigus, donc la flûte 4 seule, le piccolo seul, donc vraiment des timbres les plus éloignés entre le surgrave, le sous-grave et le suraigu. Donc c'est un mouvement très remarquable dans la messe de la Pentecôte.
Et que nous allons entendre tout de suite. Michel Fischer, merci beaucoup pour toutes ces explications.
Merci à vous.
Je citerai donc deux articles que vous avez rédigés. L'un qui est apparu en 2007 dans la revue La Flûte Harmonique, publiée par l'association Aristide Cavaillé-Cole. La revue s'intitule « L'orgue et sa musique en France entre les deux guerres mondiales » et vous avez spécifiquement écrit sur les premières œuvres d'Olivier
tout
Mission.
À fait.
Et vous développez là ce dont on parlait au tout début de l'émission, c'est-à-dire l'héritage organistique. De...
Et aussi la différence que, par rapport à cet héritage que Messiaen a apporté.
Autre article que vous avez publié, cette fois dans les cahiers du CIREM, en 2003, dans un numéro spécialement consacré à Olivier Messiaen, œuvre pour... piano et œuvre pour orgue, et dans lequel, cette fois-ci, vous développez l'aspect religieux de la musique pour orgue de Messiaen. Merci beaucoup, Michel Fischer.
Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.